Au rythme du parc. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le parc naturel régional du Vercors. Au rythme du parc. Comme si vous y étiez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de Au rythme du parc, numéro consacré aujourd'hui à la réintroduction de certaines espèces sur le parc naturel régional du Vercors et notamment la réintroduction du vautour fauve ainsi que du gypète barbu. Pour ce faire, je suis en conversation téléphonique avec Benoît Béton, chargé de mission pour le parc naturel régional du Vercors. Alors pour commencer, bonjour Benoît. Si vous voulez bien évoquer avec nous les spécificités de ces deux espèces et ce qui fait que ces deux espèces sont intimement liées.
Effectivement, le vautour fauve et le gypète barbu, qui sont deux vautours parmi les quatre qu'on peut rencontrer sur l'Europe, ce sont deux vautours qui sont intimement liés. Tout simplement parce que le vautour fauve a les capacités, par son bec crochu et son cou puissant, d'ouvrir certaines carcasses qu'il va trouver en milieu naturel, et d'enlever la peau et de pouvoir accéder ainsi à toute la chair molle de la carcasse. Puis le gypète qui derrière, lui, pourra bénéficier des résidus, donc c'est-à-dire essentiellement des os. Le gypète barbu est un rapace qui peut se contenter d'uniquement nourriture à base d'os.
Donc c'est le dernier de cette chaîne alimentaire. Et entre les deux, alors, que se passe-t-il ?
Alors entre les deux, on a tendance, lorsqu'on en décrit la chaîne alimentaire, à associer deux autres vautours qui sont aussi des espèces extrêmement rares, qui sont le vautour moine et le vautour percnoptère. Et le vautour moine, effectivement, va arriver une fois que les vautours fauves seront passés sur la carcasse. Ils vont pouvoir, eux, s'alimenter des choses que ne prennent pas les vautours fauves, donc c'est particulièrement des parties un peu plus dures, des tendons, des choses comme celle-là. Puis derrière va arriver le percnoptère, qui, lui, va se contenter, avec son petit bec, de racler les os, voire d'accéder à la moelle osseuse de certains os. Et donc arrive, en finale, l'écarisseur ultime, celui qui va manger les os et qui va donc nettoyer la carcasse dans son intégralité. Alors, tous ces vautours ont été présents dans le temps sur le massif, hein, et vraiment depuis bien longtemps. Et depuis, on va dire, fin du 19e, ce sont des espèces qui avaient complètement disparu du massif, mais pas uniquement du Vercors, puisque surtout l'arc alpin, ces oiseaux-là avaient été, on va dire, exterminés par la main de l'homme. Donc ces oiseaux sont revenus par l'intermédiaire de passionnés qui ont permis la réussite de certains programmes de réintroduction, donc notamment par rapport au vautour fauve. Le vautour moine, c'est aussi une espèce qui a bénéficié de programmes de réintroduction, donc le parc du Vercors, lui, ne s'est pas lancé dans ce genre de programme. Le gypète barbu, c'est aussi effectivement une espèce qui peut se reproduire en captivité. Et donc il y a un certain nombre de centres d'élevage et de zoos qui sont habilités à participer au programme européen, puisqu'on est bien sur des centres d'élevage et des zoos qui sont sur toute l'échelle de l'Europe, puisqu'il y a des centres d'élevage en Espagne, en Suisse, en Autriche, et puis des zoos qui peuvent même être en Finlande, qui participent à ce genre de programme d'introduction.
Donc fin des années 90, hein, le vautour fauve est réintroduit, le gypète barbu dans les années 2010. Qu'est-ce qu'implique un programme de réintroduction de ce type d'espèce ?
Alors ce genre de programme d'introduction, dans la mesure où on travaille sur des espèces qui sont protégées, nécessite des démarches administratives assez importantes, et encore le moins important est assez faible. Donc il y a beaucoup de travail en amont pour préparer un dossier administratif pour obtenir l'autorisation de réintroduire ces espèces en milieu naturel. Mais ce travail ne se limite pas à ces démarches administratives, puisque bien sûr, il faut un territoire pour accueillir ces espèces-là. Donc qui dit territoire dit il faut que les conditions de milieu correspondent à ces espèces-là. Donc forcément, c'est des espèces qui sont associées à des milieux rupestres, à des falaises. Donc le Diois est tout à fait propice à ce genre de, à ce genre de bah, d'événement. Ça, il faut rajouter aussi forcément d'autres paramètres. Hein. Donc, je vais passer sur les paramètres environnementaux. Mais derrière, il faut forcément, quand on va réintroduire une espèce, bah, mobiliser les acteurs locaux qui vont être concernés tant par l'opération d'achat que par la suite, et bien pouvoir bénéficier de la présence de ces oiseaux-là.
Et d'ailleurs, la zone autour du Diois, hein, c'est le col du Rousset plus spécifiquement, non?
Alors, tout à fait, pour le programme du Vautour Fauve, la commune de Chamaloc a été pleinement moteur dans son programme. Et c'est vrai que le lâcher de Vautour Fauve s'est fait sur la commune de Chamaloc. Donc, tout début des années, plutôt fin des années 90, lorsque le projet a commencé à se monter, on devait être dans les années 96. Et puis, les premiers oiseaux qui ont été lâchés ont dû l'être en 1999. Donc, la volière qui contenait ces oiseaux était positionnée effectivement en dessous du col des Roussets. Voilà. Donc, on est pour la commune de Chamaloc. Depuis, l'opération est réussie. Il y a eu 4 lâchés successifs dans les années qui ont suivi. Donc, le dernier lâché doit dater d'octobre 2007, du Vautour Fauve. Depuis, plus de Vautour Fauve sont lâchés, bien sûr. Par contre, dans la mesure où le contexte actuel fait que l'écarissage est obligatoire, on enlève de la nourriture potentielle aux oiseaux, la nourriture qu'ils avaient avant en miniaturel, qui était mise à disposition par les éleveurs. Depuis, on est obligé de maintenir une ressource alimentaire en récoltant des carcasses chez les éleveurs qui participent au programme. Et ces carcasses donc, sont mises à disposition sur une placette qui, elle aussi, se trouve sur la commune de Chamaloc.
D'accord. Vous connaissez un petit peu les problèmes autour de la réintroduction du loup, pour ne prendre que cet exemple. Est-ce que vous avez été soumis par la population d'Iwaz à des critiques ou des appréhensions toutes particulières quant à la venue de ces vautours?
Non. Forcément, la population s'inquiète, quoi qu'il en soit, au début, de l'intérêt de gens de programme et de l'espèce en question. Effectivement, Vautour Fauve, Gypate Barbu, comme on peut l'entendre localement, ce ne sont pas des espèces à problème. Je reprends des mots qu'on peut attendre. Effectivement, l'arrivée du loup, et là je ne vais pas employer le mot réintroduction parce que jusqu'à preuve du contraire, il est bien revenu naturellement sur le territoire. Voilà, l'arrivée du loup, oui, par contre, c'est un retour qui amène des enjeux naturalistes assez forts, mais malheureusement, le loup revient avec tous les problèmes qui sont associés à sa cohabitation avec le monde de l'élevage.
À sa présence, tout à fait. Allez, on va revenir à nos vautours, j'ai envie de dire. Hein. Aujourd'hui, les 4 espèces présentes en Europe et sur le parc naturel régional du Vercors arrivent-elles à se reproduire tout simplement? Est-ce que le processus de la vie est engendré au point que maintenant, à part quelques carcasses à mettre à leur disposition, ils se débrouillent très bien tout seuls?
Alors oui, effectivement, la réussite du programme de réintroduction de Vautour Fauve, c'est que depuis 2007, on a quelques couples qui se reproduisent sur le Diois, donc sur la commune de Trèche-Mécrier, sur les falaises d'Archienne. Donc on a quelques couples qui se sont installés en 2007, et puis depuis 2010, on arrive à une stabilisation de la population, puisque c'est une trentaine de couples que l'on dénombre chaque année en période de reproduction. Donc le Vautour Fauve est une espèce qui vit en colonie. Donc voilà, on a une petite colonie, visiblement qui rentre dans une dynamique assez stable et qui se reproduit de manière annuelle en toute sérénité. Donc là, on peut considérer que le programme d'introduction du Vautour Fauve est une réussite. En parallèle, comme je disais que ces espèces sont intimement liées, il est vrai que depuis le programme d'introduction du Vautour Fauve, on voit de plus en plus souvent des vautours moines. Mais c'est aussi une espèce qui est extrêmement rare, extrêmement menacée. Et du coup, c'est une espèce que l'on ne voit pas encore reproduire sur le Diois ou sur le massif du Vercors. Et c'est une espèce qui actuellement se reproduit dans les baronnies en raison de, je crois, 5 couples cette année. Le programme est à ce jour, je crois, pas encore fini. Donc, il y a encore quelques oiseaux à introduire. Après, c'est tout à fait les choses vont se faire naturellement. C'est une dynamique. Certains oiseaux qui vont peut-être être attirés par le massif, hein, qui est tout à fait aussi bien intéressant pour eux que peut-être les baronnies. Et c'est dans les années à venir qu'on aura certainement la chance de pouvoir voir un couple de vautours moines s'installer durablement sur sur les pentes du Vercors.
Ce serait super,
le
effectivement.
Le Père, on est aussi sur une espèce qui est extrêmement rare, qui, elle, ne bénéficie pas de programme de réintroduction, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'oiseaux en captivité, donc pas d'oiseaux qui se reproduisent, et donc pas d'oiseaux lâchables. Donc là, l'opération consiste à surtout lutter contre d'éventuelles menaces. Il y a actuellement des projets européens qui sont mis en avant pour favoriser l'expression de cette espèce-là. Il faut savoir donc que depuis 2006, par la présence du vautour fauve, encore une fois, quand je parlais que ces espèces sont intimement liées, on est là aussi, la présence du vautour fauve a permis le retour naturel du vautour percnoptère. Et si en 2006, on cherchait activement où pouvait se trouver un éventuel couple, hein, parce qu'on avait deux individus identifiés et on supposait la présence d'un couple, c'est qu'en 2007 qu'on l'a trouvé, et qu'on l'a trouvé sur la commune de Plan-de-Bay, donc dans la vallée de la Gervanne, et que ce couple a été trouvé. Donc ce couple est aussi intéressant parce que c'est les dernières données de reproduction du vautour percnoptère qui était quand même... qui n'avait pas complètement disparu comme il avait disparu les autres vautours, datait des années 60, aussi dans la ville de la Gervanne, sur les falaises voisines de là où le couple s'est installé.
D'accord. Ce sont des passionnés, des ornithologues passionnés, qui constatent un jour que waouh, cette espèce est dans les parages. Comment vous constatez qu'une espèce est là ou pas?
Ces éléments sont souvent issus de vieilles traces. Alors, je vais dire des bases de données, non, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des bases de données, mais c'est des archives papier de naturalistes dans le temps. Qui faisait état de présence de certaines espèces. Après, il peut arriver que par l'analyse des différentes données, on puisse prouver la présence passée de ces espèces-là. Donc je pense à une autre espèce sur laquelle le parc est intervenu, ça peut être le bouquetin des Alpes. Hein. Le bouquetin qui avait disparu du Vercors avait bel et bien été présent, pareil, il y a très longtemps. Et là, on a pu retrouver quelques éléments de squelette qui ont prouvé la présence du bouquetin dans un passé assez ancien. Par exemple, on a retrouuvé des traces photographiques prouvant un gypaète barbu qui avait été tué et qui était montré sur la place publique de la commune de Pont-en-Royen, qui montrait je suis pas sûr de l'année, c'était 1874 ou 1875, qu'un gypaète avait été abattu sur cette commune-là.
Et montré sur la place publique, tel un trophée, j'imagine.
Tel un trophée, oui, parce que le gypaète barbu avait la particularité... être considéré comme un voleur d'agneaux, un voleur d'enfants, qui en plus, lorsqu'il dévorait ses agneaux, ses enfants, se baignait dans le sang qui était présent suite à son carnage et retournait ensuite narguer les habitants. Mmh. Il était un petit peu diabolisé, prenons des termes. Et donc c'est vrai que ce sont des éléments qui lui ont collé la peau et qui ont valu son extermination. Donc depuis, on va dire que la connaissance a évolué sur cette espèce. Cette espèce, comme je le disais, elle est exclusivement charognard et se nourrit au moins à 80% d'os, si ce n'est pas plus. Et ce qui faisait cette impression à l'époque des habitants, c'est tout simplement que c'est un oiseau qui a une habitude de se baigner dans des bains de boue d'eau ferrugineuse et qui va avoir tendance à son plumage qui est blanc sur son torse. Bah, du coup, elle lui a imprégné une couleur un peu rouille. Il suffisait qu'il soit vu juste après son bain, ça devait un petit peu ruisseler, un petit peu goûter. Et forcément, ces éléments-là étaient pris pour... c'est un diable. Il a dévoré l'agneau. Il s'est baigné dans son sang. Maintenant, on connaît les raisons. Il y a deux raisons. C'est d'une, certainement pour lutter un petit peu contre l'éventuel... parasite qui pourrait s'installer sur lui, mais c'est surtout pour des raisons de dominance, puisque sur des territoires, les gypètes barbus, eux, ont un comportement territorial, donc ils vont descendre un territoire. Donc, pour simplifier la démarche, plus le gypète est au cré, plus il est dominant, et cette dominance se joue même à l'échelle du couple. Donc, tantôt ce sera le mâle, tantôt la femelle, qui sera un peu plus de couleur ocre que le conjoint.
D'accord. Ils sont malins, hein.
C'est vrai.
Est-ce que sur le plan de l'écosystème du parc naturel régional du Vercors, leur disparition a engendré des conséquences notables?
C'est pas sous schéma-là que la réflexion s'est menée. La réflexion a été un petit peu différente. C'était plutôt de se dire, et ça c'est quand même assez fort, je pense qu'il faut que ça soit connu, c'est que déjà le territoire, le massif en tant que tel, plus le pourtour, hein, qui font l'objet le Diois, l'Oudiwa et compagnie, on est vraiment sur un territoire vaste, mais d'une richesse en termes d'espèces animales et végétales qui est vraiment phénoménale. Et cela s'explique par différentes raisons. Déjà, d'une, qu'on est sur un contexte géologique assez particulier. Donc là, on va un peu plus mettre en avant le massif du Vercors avec son côté calcaire. À côté de ça, il faut aussi prendre en compte qu'on est sur nos territoires sur des influences diverses climatiques. Donc on va avoir des tendances d'espèces un peu plus caractéristiques de milieux plus secs avec les influences méditerranéennes. On est aussi soumis à des influences plus continentales, on est soumis à des influences plus atlantiques, on est soumis aussi aux variations d'altitude. Donc tous ces paramètres-là font que sur un territoire certes assez vaste, mais malgré tout assez restreint, on se retrouve avec des espèces qui sont caractéristiques de ces différents milieux et qui sont du coup présentes sur le territoire. Certes, elles sont présentes, mais si elles sont sur vraiment caractéristiques de certains types d'influence et que ces influences évoluent, ce sont des espèces qui sont donc, pour le coup, assez facilement menacées par l'évolution climatique qui pourrait survenir dans les dizaines d'années qui viennent. Donc on a été sur un territoire qui était déjà excessivement riche, mais pour autant, si on prend le massif du Vercors, il y avait un constat qui était fait à l'époque par les techniciens du parc, mais aussi par les élus du parc à l'époque, c'était de se dire, on a une richesse phénoménale, pour autant, il y a un milieu naturel qui est très présent sur notre territoire et qui est pour lui dépourvu de la faune qui, normalement, devrait être présente. Et ces milieux, c'est tout simplement les milieux rocheux. Et dans les années 80, quand ce constat a été fait, c'est de là qu'est partie l'idée de réintroduire le bouquetin des Alpes pour qu'il puisse recoloniser l'ensemble des falaises du massif. Puis suite à ça, l'étape d'après, c'était de se dire, mais il y a d'autres espèces qui devraient être présentes sur ces falaises, notamment les vautours. Et bien, le programme de réintroduction du vautour fauve s'est lancé. Et je dirais que maintenant, avec le programme d'opération de réintroduction du gypaète barbu, on arrive dans l'étape ultime, celle de la fin de la reconquête de ces espèces qui avaient disparu dans un passé plus ou moins lointain.
Mais que de points positifs, en tout cas.
Tout à fait.
Allez, la suite des opérations en ce qui concerne nos vautours.
Eh bien, donc, c'est effectivement l'opération qui arrive à sa phase terminale, mais qui est en cours depuis qu'en 2010, c'est la réintroduction du gypaète barbu. Donc le dernier des vautours qui vient donc s'alimenter à partir d'os, qui est réintroduit depuis 2010 sur la commune de Trèche-Mucrayé, qui accueille l'arrivée de 2 à 3 oiseaux par an, donc sur 5 ans. Pour le gypaète, ce qui est important de prendre en compte aussi, et ça ce sont les spécialistes de l'espèce qui l'ont mis en avant, c'est qu'il s'avère que l'une des espèces les plus intimement liées au gypaète, donc mis à part les autres vautours, c'est la présence de bouquetins. Tout simplement parce que le bouquetin, parce qu'il vit en haute altitude, de manière rocheuse, qu'il est présent sur certains secteurs en quantité, est une ressource alimentaire qui peut arriver tout au long de l'année, par rapport à des chutes hivernales ou des maîtrises d'avalanche, qui permettent aux gypaètes barbus de trouver de la nourriture dans les périodes les plus dures pour lui, donc les périodes hivernales.
Je voulais vous remercier, hein, Benoît, pour toutes les précisions autour des vautours présents sur le massif du Vercors et sur le Diois plus précisément. Et donc aujourd'hui, au rythme du parc spécial réintroduction, je vous remercie de la transition. Benoît, je vous emmène tout de suite pour la capsule où on va évoquer très succinctement le bouquetin et sa présence sur le parc. Capsule. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le parc naturel régional du Vercors. Capsule. Capsule. Comme si vous y étiez. Thank you. Allez, le parc naturel régional du Vercors donc décide de réintroduire le bouquetin. Bah, toujours Benoît Béton pour nous parler de cette réintroduction. Donc, comment s'élabore ce projet, Benoît ?
C'est déjà une concertation locale pour arriver à faire adhérer tous les acteurs qui peuvent être concernés par cette espèce-là. Et puis après, c'est des démarches administratives importantes qu'il faut réaliser avant l'arrivée concrète d'animaux qu'il faut aller, par contre, pour le coup, au bouquetin, capturer sur les massifs. Voilà.
Justement, j'allais vous parler un petit peu du procédé. Donc, vous allez capturer ce bouquetin sur des massifs voisins et vous le ramenez à la maison, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. C'est le programme d'introduction du bouquetin, dans la mesure où c'est une espèce qui se reproduit et qui est bien présente sur votre massif. L'objectif est d'aller chaque année capturer entre 15 et 20 individus, des mâles et des femelles, sur un ou deux massifs différents pour essayer de croiser au maximum les données génétiques.
Quels ont été les points de blocage rencontrés, les difficultés rencontrées ?
S'il faut en trouver une, la plus c'était sur vraiment trouver le site qui colle parfaitement aux caractéristiques du bouquetin. Et les difficultés ont plus été liées, je veux dire, à des démarches administratives qui ont un petit peu freiné le projet localement et la dynamique qui était lancée avec les acteurs locaux.
Est-ce que vous pouvez évoquer avec nous les moyens mis en place concrètement ? Comment le parc investit-il cette réintroduction ? Ou l'a-t-il fait en tout cas ?
Effectivement, ces différents programmes de réintroduction peuvent être coûteux en fonction des espèces, en fonction des moyens qui sont nécessaires, soit pour aller chercher les individus, soit pour associer des partenaires. Ce qui est non négligeable, c'est que ces espèces-là sont introduites et derrière, c'est beaucoup de moyens humains et techniques qu'il faut fournir. Donc, nécessite tout simplement l'expertise technique que peut fournir le parc. Et puis, ces espèces-là ne sont pas réintroduites dans le milieu et livrées elles-mêmes pour les années qui suivent. C'est aussi des espèces qu'il faut suivre, s'assurer du bon développement des populations, de leur bonne installation. Il n'y a pas tout simplement de problème avec différents paramètres qui avaient pu être estimés auparavant.
Alors, pour n'évoquer que le bouquetin, aujourd'hui, ce programme de réintroduction représente-t-il une réussite ou un échec ?
La réintroduction du bouquetin est aussi une véritable réussite puisque la population se développe. Elle commence à occuper une grande partie des falaises du Diois, mais aussi de toute la bordure est, la bordure du Trièvre, qui fait que maintenant, on peut rencontrer des bouquetins, de la commune, des communes du Diois jusque la commune de Lanfranc-Vercors, en longeant les crêtes du Vercors.
Et si je puis me permettre, en plus, les vautours en profitent.
Tout à fait, les vautours en profitent, les promeneurs en profitent, les naturalistes en profitent, et puis voilà, tout le monde peut en profiter.
C'est parfait. Si l'un de nos auditeurs a besoin d'un renseignement, qui pourrait-il contacter ?
Il faut bien évidemment contacter l'accueil du parc. Il y a quelqu'un qui sera en capacité à renvoyer peut-être sur moi ou peut-être sur d'autres de mes collègues qui seront plus à même à répondre à ces questions. Et puis moi, je dirais tout simplement, vu qu'on est dans le concret, dans l'opération du moment, si vous avez l'opportunité de voir des gypaètes vous survoler, dans la mesure où ces oiseaux sont pour le moment avec des plumes décolorées pour qu'on arrive à les reconnaître. Surtout, n'hésitez pas à vous avertir de vos observations et nous les faire remonter. Ce sont des éléments qui sont très importants pour nous.
Merci Benoît Béton de toutes ces informations. Vraiment, vous êtes une source inépuisable. En tout cas, moi je souhaite bon vent à ces vautours et à ces bouquetins. Et puis bon vent à toutes les entreprises que le parc naturel régional du Vercors met en place, bien sûr.
Merci bien.
À bientôt dans Au rythme du parc.